RRB, première radio d'information.
Et voici à présent le magazine des sports. Et avant de retrouver Jean-François Baudin, Mickaël Juneski, on salue notre partenaire.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Voilà le magazine des sports du lundi. Mickaël Juneski, bonjour. Et on va commencer par parler football avec la 13e journée de Ligue 1 qui se conclut par la victoire de Marseille sur l'AS Monaco.
Exactement, l'Olympique de Marseille qui a fait la bonne opération du jour en s'imposant sur l'AS Monaco au Vélodrome. 2-1, un succès qui permet aux Olympiens de devancer leur adversaire du jour au classement. D'abord mené au score après l'ouverture signée Golovin juste avant la pause. Les Marseillais ont su réagir avec des réalisations signées Luis Enrique à la 53e et Greenwood sur pénalty à la toute dernière minute du temps réglementaire. L'OM redevient le deuxième du championnat de France, juste devant Monaco. Parmi les autres résultats du jour également, un autre Olympique a brillé. L'Olympique lyonnais face à Nice qui s'est imposé sur le score de 4-1 avec un triplé d'Alexandre Lacazette. Le capitaine de l'OL, heureux de voir son club se rapprocher lui aussi du podium.
Ça fait plaisir, ça fait du bien de marquer. L'ovation du public aussi, elle fait du bien encore une fois. Mais surtout cette victoire avec... Elle fait du bien à toute l'équipe, que ce soit défensivement, offensivement. Et ça conclut une belle semaine. On est sur le bon chemin.
Voilà, Lyon qui est désormais cinquième donc de la Ligue 1. Allez, encore des résultats. Et Toulouse qui aujourd'hui l'a emporté face à Auxerre, 2-0. Angers s'est imposé sur le terrain du Havre, 1-0. Enfin, Montpellier et Lille ont fait un match nul, 2-2. Ce week-end, Lens avait battu Reims, 2-0. Rennes s'était imposé sur Saint-Etienne, 5-0. Brest l'avait emporté sur Strasbourg, 3-1. Et puis, le Paris Saint-Germain avait fait match nul contre les Nantais d'Antoine Comboire. Et un but partout. Alors au classement, le PSG est évidemment leader, désormais devant donc Marseille et Monaco 3e, Lille est 4e, Lyon 5e et puis les Nantais d'Antoine Comboiré sont désormais de leur côté 17e du classement, juste devant la lanterne rouge Montpellier.
On va jeter évidemment un coup d'œil maintenant sur les principaux résultats dans les autres grands championnats européens.
Et en Italie tout d'abord, le match entre la Fiorentina et l'Inter Milan qui a dû être arrêté ce matin après seulement 15 minutes de jeu et ce après le malaise d'Eduardo Bove. Les derniers examens sont rassurants pour ce joueur qui a dû être immédiatement évacué à l'hôpital. Le match se disputera donc ultérieurement. De son côté, le leader du Calcio, Naples, a battu Torino 1-0. Le Milan AC a surclassé Empoli 3-0. Enfin, la Juventus de Turin n'a pu faire mieux qu'un nul à Lecce, un but partout. On passe à l'Angleterre et Liverpool qui a battu Manchester City. C'était le choc du jour, une victoire des Reds 2-0. Chelsea l'a emporté sur Aston Villa 3-0 et Manchester United a dominé Everton 4-0. Ce week-end, Arsenal avait battu West Ham 5-2. La Bundesliga allemande avec ce match nul entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, 1-2 entre les deux formations. En Espagne, le Real Madrid l'a emporté à Getafe 2-0 avec un but de Kylian Mbappé. On rappellera du week-end ce succès de l'Atlético Madrid face à Valladolid 5-0, dont une belle réalisation d'Antoine Griezmann. Et puis le Barça, leader du championnat espagnol, s'est incliné contre Las Palmas 2-1. Une fois n'est pas coutume, on parle aussi de football en Amérique du Sud. C'était ce week-end une victoire historique des Brésiliens de Botafogo, dont le propriétaire est un certain John Textor. Vous le savez, le propriétaire de l'Olympique Lyonnais. Botafogo qui s'impose face à l'Atlético Mineiro sur le score de 3-1 en finale de la Copa Libertadores. Et puis un mot de foot féminin avec l'équipe de France qui jouait un match amical face aux Nigérianes. Les Françaises se sont imposées 2-1.
Allez, on va aller maintenant sur les terrains de rugby avec un dernier choc pour le compte de la 11e journée de Top 14 ce matin. Et Bayonne a eu raison du Stade Français.
Victoire de l'aviron bayonnais sur ses terres contre un Stade Français toujours dans le dur. 21-13 en faveur de Bayonne qui conserve ainsi son invincibilité à domicile et remonte à la 5e place. Ce week-end, la grande affiche avait souri à Toulouse sur le terrain du Racing 92. Victoire du Stade Toulousain, leader du Top 14, 21-17. Clermont l'avait emporté sur Castres 54-10. La section paloise s'était imposée face à Lyon 29-15. Et puis le promu Vannes a réussi l'exploit de s'imposer face à La Rochelle 23-14. Écoutez Cyril Blanchard, le talonneur du club breton de Vannes.
C'est énorme. Tout le monde est euphorique. Les joueurs, les dirigeants, le coach. Faut croire en nous. On n'est pas largué au classement. On sait dans quel championnat on bataille. On va construire sur cette victoire pour pouvoir gagner notre bataille à nous.
Allez, encore des résultats ce week-end. L'UBB qui a battu Montpellier 9 à 6 et Toulon qui s'est imposé à Perpignan 22 à 13. Alors, un coup d'œil au classement après cette 11e journée de championnat de France. Toulouse fait toujours la course en tête, juste devant l'UBB et Clermont qui complètent le podium. Le RCT est 4e, suivi donc de Bayonne et La Rochelle. Castres est aux portes du top 6, alors qu'en bas de tableau, le Stade français se retrouve 12e avec un seul petit point d'avance seulement sur Lyon et Vannes avec seulement 3 victoires au compteur cette saison, reste lanterne rouge.
Et puis on va parler aussi rugby à 7, puisque c'était ce week-end la première étape du circuit mondial, elle avait lieu à Dubaï.
Les équipes de France de retour, chez les féminines, les Bleus qui ont réussi à décrocher la 3e place, une victoire dans la petite finale face aux Anglaises, 15 à 12. Les Françaises qui s'étaient inclinées en demi-finale face aux Néo-Zélandaises, 28 à 14. Chez les messieurs, les Français, vous le savez désormais sans la star Antoine Dupont, ont fini à la 5e place ce tournoi de Dubaï, en battant l'Afrique du Sud pour leur dernier match de classement 17-15. Ils avaient été battus par les Fidjiens en quart de finale 19 à 17.
Vos stations Shell et Pacific, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
C'est donc la Formule 1 avec Max Verstappen qui a signé une 9e victoire cette saison. Le pilote Red Bull a en effet remporté le Grand Prix du Qatar.
Le Néerlandais s'est baladé. Une semaine après son sacre de champion du monde, il a terminé devant la Ferrari de Charles Leclerc et la McLaren d'Oscar Piastri. Charles Leclerc qui, lui, se donne désormais à 200% dans la lutte pour le titre constructeur entre McLaren et Ferrari. Et puis une belle performance pour le Français Pierre Gasly. Il a terminé à la 5e place au volant de son Alpine. On l'écoute.
Incroyable. Honnêtement, je suis vraiment très très content. La voiture a très bien marché, on a bien géré. J'ai pas eu un très bon départ où je me suis fait un peu bloquer, j'ai perdu des positions. Après, j'ai essayé de rester calme dans la voiture et je me sentais bien. On a essayé de bien gérer les pneus, on a réussi à passer Yuki, Alonso, très positif. On a fait quelques changements qui nous ont aidés comparé à la sprint. C'était très très chaud avec Carlos sur les derniers tours de le garder derrière, donc il a fallu énormément défendre. Mais au final, on a réussi à tenir, donc très content.
Voilà, Pierre Gasly, 5e de ce Grand Prix du Qatar. L'autre tricolore, Esteban Ocon, a lui dû abandonner dès le premier tour sur un accrochage, un abandon qui signe la fin de son aventure plus tôt que prévu au sein de l'écurie française. Il ne disputera pas en effet a priori la dernière course de l'année. Il devrait être remplacé par Jack Doohan à Abu Dhabi dans une semaine. Il avait déjà annoncé il y a plusieurs semaines son départ de chez Alpine pour rejoindre Haas la saison prochaine. Le dernier Grand Prix de la saison de F1, ce sera donc le week-end prochain.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainé par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2024. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Un mot de sport d'hiver avec du biathlon et une étape de la Coupe du Monde en Finlande à Kontiolahti. L'équipe de France messieurs s'est imposée sur le relais devant la Norvège et la Suède. Les Françaises ont terminé deuxième du relais juste derrière les Suédoises. Et puis on termine cette première partie du MAC des sports, Mickaël, par de la voile avec un point sur le Vendée Globe.
Au dernier pointage, 21 jours et 12 heures de course, c'est Johan Richomme sur Paprec Arkéa qui est en tête de la course devant Charlie Dalin, skipper de Massif, et Sébastien Simon à bord de Groupe Dubreuil. Les navires de ont dépassé le cap de Bonne-Espérance à la pointe sud du continent africain. Ils naviguent à présent en direction des Kerguelen, à la limite de l'océan Arctique, et ensuite vers l'Australie. Encore plus de 16 000 milles nautiques à parcourir pour le leader.
Midi de le magazine des sports, deuxième partie consacrée à l'actualité sportive en Calédonie. On se retrouve dans un instant.
RRB, pour être les premiers et les mieux informés. Pour vous, comme pour nous, il n'y a pas de jour sans l'OPT sur Radio Rythme Bleu. Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation de la lutte anti-termite. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo. Un numéro 28 94 20.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, Cheyenne raconte une histoire aux tout-petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dôme, la boutique des tout-petits. Petit Dôme, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dôme, on n'hésite plus, on y va.
Tout le sport en trois lettres, RRB.
La suite du magazine des sports, on retrouve Jean-François Baudin.
Oui, pour l'actualité sportive en Calédonie, avant de défiler les résultats du week-end, on va d'abord parler triathlon, Mickaël, avec notre invité qui est le nouveau président de la Ligue.
Exactement, Eric Savignac, bonjour. Oui, merci d'avoir accepté notre invitation ce midi. L'occasion de faire un point sur l'actualité de la Ligue calédonienne de triathlon. Alors, tout d'abord, hein, évidemment, l'impact, comme toutes les disciplines sportives, de la crise hein, qui est survenue durant cette année 2024. Pour le triathlon, globalement, quel bilan on fait cette longue interruption des compétitions, de tout ce qui se faisait hein, sur le territoire. Quel bilan on en dresse pour le moment ?
Ben là, écoutez, la fin d'année est plutôt réjouissante. On avait démarré sur les chapeaux de roue avec de belles organisations. Bon, ensuite, l'interruption qu'on connaît. Et puis là, les clubs se sont affairés à remettre en place assez rapidement des compétitions à proposer. Et on voit le succès que ça peut avoir. Alors, il fallait un petit laps de temps, puisque à la suite des événements, il faut aussi une certaine durée pour obtenir les autorisations. Donc, un laps de 2 mois se fait par rapport à la DJS. Donc, voilà, on n'a pas pu mettre en place de suite, sinon on l'aurait fait. On aurait gagné un petit peu. Et c'est vrai qu'il y a quelques compétitions qui s'entrechoquent, notamment avec la natation, mais voilà, on essaie de proposer à tous les publics. Et on est très heureux parce que finalement participent des gens qu'on n'avait jamais vus sur ce type d'épreuve. Je passe un de mes collègues et un grand sportif sur les trails, Ludo Lanceleur, qui est venu s'essayer sur le swimrun. Et ça lui a beaucoup plu. Et d'autres compétiteurs également. On a touché toutes les tranches d'âge. Et c'était pas trop élitiste comme peut être un triathlon ou un aquathlon. Donc je pense que tous les clubs sont très heureux et la Ligue parle même de cette fin d'année.
Voilà, on va y revenir dans un instant. Oui, c'est plutôt une année qui se termine relativement bien. Tout d'abord, cette nouvelle équipe en place à la Ligue, clairement des objectifs définis ou en tout cas un mot d'ordre. Comment ça va se passer le travail maintenant pour tout ce qui se passe, que ce soit l'organisation des compétitions sur le territoire, également la préparation des grandes échéances. C'est quoi le mot d'ordre finalement ?
Bien écoutez, là, on est une équipe d'une dizaine de personnes on a sectorisé un petit peu les différents pôles avec des gens qui s'occupent ben, notamment des compétitions à l'extérieur. Et Dieu sait si cette année, on a eu pas mal de participants avec les championnats du monde longue distance. Là,
on va y revenir ça voilà. Aussi dans un instant.
Et ensuite, voilà, le développement des jeunes, évidemment, par le biais de la création, là maintenant, de deux établissements collèges qui créent deux sections sport enchaîné. Donc ça, c'est vraiment une très bonne chose pour le développement au niveau des jeunes. Voilà, chacun s'est réparti un petit peu les différents secteurs. La Ligue maintenant accompagne surtout les clubs. Voilà, on essaie de mettre en place et d'aider les clubs qui vont organiser ces différentes compétitions, et notamment pour 2025 où on a déjà brossé le calendrier, il est pas mal.
Bon, alors justement, cette fin d'année, vous étiez en train de le souligner, une fin d'année qui se termine vraiment comme des cadeaux de Noël finalement pour tous les pratiquants. Il faut croire qu'ils étaient très en attente, hein, chaque événement qui a été organisé, différents événements, plus différents formats, ça s'adressait à tout le monde. De plus en plus de personnes qui viennent, vous l'avez souligné d'ailleurs, même ceux qu'on n'avait pas l'habitude de voir sur des formats triathlon ou des formats adaptés en tout cas, qui décident de s'essayer à la discipline. Ça pour vous, c'est déjà la preuve que le travail engagé porte ses fruits quelque part.
Oui, et puis je suis surtout content pour les clubs. Bon, là, j'adresse un petit mot à Antoine qui a organisé le swimrun à Lifou. C'était un petit peu plus compliqué, mais il n'a pas baissé les bras et tant pis. Il a quand même organisé et pour ses licenciés de Jeou Triathlon. Donc voilà, même à Lifou, les clubs se sont un petit peu bougés pour continuer. Après, on a tous les clubs qui ont remis un petit peu le bleu de chauffe. On va dire que la difficulté, c'était de remotiver surtout les bénévoles. Parce que sans bénévoles, c'est moins évident d'avoir des athlètes. Donc on motive les bénévoles, on prépare et puis les gens viennent parce que c'est convivial. Parce que c'est bon enfant et que chacun y trouve, que ce soit ou nageur ou coureur ou cycliste, puisqu'on l'a vu avec le succès hier organisé par la Sport Team du Run and Bike. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur et de revoir ces gens heureux finalement, puisque même dans le monde du triathlon, de nombreuses personnes ont été touchées. Et voilà, ils trouvent à ce moment-là de quoi s'évader et puis penser à autre chose. Voilà.
Finalement, il y avait une telle attente pour tous les fans de sport en plein air, un sport complet comme le triathlon, où toutes les disciplines, toutes les compétitions, on va dire, qui s'en dégagent. Il y a une bonne carte à jouer, finalement, pour la Ligue calédonienne de triathlon, au vu de cette situation, on va dire, pour continuer de populariser la pratique.
Oui, on prend comme exemple les deux collèges qui ouvrent ces sections de sport enchaîné. On avait ou des sections pour de l'athlétisme et Dieu sait que j'apprécie l'athlétisme, mais que pour des coureurs ou que de la natation. Là, finalement, chaque enfant pourra trouver son sport et découvrir par la même occasion une autre discipline ou d'autres disciplines, puisqu'il y a également le vélo.
Voilà. Alors il y a cette partie populaire, en tout cas on l'a vu, de nombreux événements qui, à la grande surprise sans doute des organisateurs, ont attiré beaucoup de monde. Il y a aussi le côté performance de haut niveau. Lorsque les compétitions étaient interrompues ici en Calédonie, les triathlètes n'ont pas hésité à aller chercher ailleurs, se sont transformés en globe-trotteurs pour aller réaliser de beaux exploits à droite à gauche de par le monde, hein, c'est bien ça?
Oui, on a mis plus en exergue ces compétitions.
C'est tout le temps.
Du fait, mais c'est tout le temps, puisque se préparer pour un championnat du monde, par exemple à Tandeville, ça ne se prépare pas 15 jours avant. Donc, effectivement, c'est une année très prolifique en termes de compétition à l'extérieur. Et on a voulu, dans le cadre de la Ligue, également un peu médiatiser en faisant passer le message que on ne s'arrêtait pas pour autant. Mais là, effectivement, entre les championnats du monde, on a toujours Hugo Tormento, notre leader. Malheureusement, sa compagne d'équipe s'est blessée sur la course, mais il nous a représenté au niveau mondial sur l'ensemble des Otilo. Après Tahiti, enfin, vous aviez annoncé la dernière fois tous les résultats. Et là, ça n'est pas fini avec les deux qui ont terminé à Hawaï. Donc Laurent Travers et Mathieu Zalamacha. Et puis là, la semaine prochaine, on a toute une flopée de triathlètes qui partent pour les championnats du monde Half à Taupo. Et là, ça va de 30 à 60, à plus de 60 ans, avec notre doyen Bernard Laigle, qui certainement fera un podium, puisqu'il a déjà fait un podium au championnat du monde à Townsville.
Voilà. Ça, c'était un grand rendez-vous de l'année pour les triathlètes confirmés, en tout cas ces mondiaux.
Pour le half, oui, Hawaï pour le full, et pour le half, Taupo, évidemment, c'est la consécration pour ceux qui veulent faire une finale en half Ironman. Alors il y a un peu plus de facilité pour certaines de s'y qualifier, puisque c'était à Taupo et de ce fait les Européens viennent un petit peu moins, donc ça laisse un peu la chance. Au même titre que l'année prochaine, au mois d'octobre, les championnats du monde format M auront lieu à Wollongong, donc c'est à une heure au sud de Sydney, et au même titre que les championnats du monde qui avaient eu lieu en 2017 ou 2018 à Gold Coast, il y aura très certainement un gros contingent de triathlètes calédoniens qui vont s'y préparer et y participer.
Et on va suivre ça de près. Qui dit au niveau, dit aussi les échéances pour les Cagous, les équipes de Calédonie, en tout cas les Jeux du Pacifique, ça reste ça aussi un objectif qu'il faut s'emparer au plus vite pour la Ligue calédonienne.
Oui, là nous avons déjà, comme vous le savez, pour les mini-jeux, il y a dans la sélection à minima des jeunes type U19 ou des jeunes qu'on doit intégrer dans l'équipe. Donc là, on a déjà quelques jeunes qui intègrent et qui ont pris conscience qu'il y avait une possibilité d'être sélectionnés. Et évidemment, après, dans la continuité, les Jeux de Tahiti qui se préparent déjà, effectivement.
Oui. Alors, on va continuer de regarder maintenant devant nous. Au niveau territorial, l'année 2025, vous l'avez souligné tout à l'heure, on ne peut pas encore rentrer dans tous les détails, mais en tout cas, la Ligue a décidé déjà de se pencher sur un calendrier. La volonté avant tout, c'est de voir le retour de grandes épreuves populaires pour les Calédoniens, pour les pratiquants.
Oui, déjà, on va commencer fort le mois de mars avec le triathlon de la rentrée. Et puis derrière, on aura un gros week-end triathlon avec aquathlon et triathlon sur Deva. Donc là, tout est booké. Ça, c'est pour l'organisation de la Ligue, avec les clubs. Ensuite, les clubs ont posé également des calendriers, comme les swimruns et autres compétitions. Le fameux triathlon, Jérémy Broutet de Bourraquet, et son célèbre organisateur, Serge Lotocard. Donc, il continuera à organiser ce triathlon. Et derrière, voilà, on essaie de remettre en place le triathlon. Alors, il va changer forcément de nom. Les annonceurs, les sponsors sont un peu plus frileux du fait que le triathlon international n'ait pas eu lieu, lui, depuis de nombreuses années, entre les problèmes de requins, etc. Donc là, on essaie de trouver un compromis avec la commune de Nouméa pour essayer de le remettre en route et amener une belle fête du triathlon, certainement au mois de septembre.
Au vu du succès des dernières opérations qu'on a pu voir un peu partout sur le territoire, notamment à Nouméa, vous avez bon espoir ?
L'espoir fait vivre.
Éric Savignac, en tout cas, merci beaucoup encore.
Merci à vous
d'avoir accepté notre invitation dans ce Mac des Sports ce midi.
Merci beaucoup.
Merci bien. Allez, on va revenir, Mickaël, sur tous les résultats sportifs du week-end. On va continuer à parler un peu de triathlon, d'ailleurs.
Oui, bah justement, la Sport Team a organisé ce dimanche sa Volvic Run and Bike, désormais traditionnelle. Vous le savez, une épreuve désormais très connue. Les concurrents s'affrontent par équipe de deux sur un 14 km chronométré avec un vélo pour deux. C'est ce qui fait l'originalité de ce relais. Les duos doivent s'organiser comme ils l'entendent. Et la victoire est revenue à l'équipe Benoît Siegfried et Jérémy Marie du club du CTNC. La réaction des vainqueurs.
C'était difficile à juger au premier tour parce qu'ils avaient toujours un peu d'avance, mais j'ai pas calculé. Moi, j'ai pas. Enfin, toi aussi, je pense, Jérémy, mais on n'a pas regardé à peu près les temps, mais on voyait qu'on n'était pas si loin. Puis, dernier tour, je me suis dit, ouais, ça peut le faire à Côte Blanche. Là, on s'est dit, bon, allez, ça va être dur jusqu'à la fin, mais ça pouvait le faire, ouais.
C'est ça, on a écourté les relais pour essayer d'aller le plus vite possible et on a joué le shortcut sur le dernier tour. Bloc jusqu'au bout, c'est difficile, mais ça l'a fait.
Jérémy Marie et Benoît Siegfried, donc, qui gagnent en 48 minutes 41 secondes devant la paire Angélique Plaire, Fabien Pastor, premier duo mixte, et Jérémy Duval associé à Natalia Prado. Emmanuel Favard et Céline Herzel ont terminé meilleure féminine. L'événement se terminait par une course à obstacles pour les enfants, dont tout plus de 250 participants étaient au rendez-vous. Pas très loin de là, ce week-end toujours à la Côte Blanche, mais cette fois-ci au large, la 13e édition de la No Woman No Sail. Un événement 100% féminin, 80 participants au rendez-vous, répartis en 16 équipages pour s'affronter sur deux journées de régate. C'est finalement l'équipage Lévy de Mulette qui a terminé en haut du podium. Un moment qui restera gravé dans la mémoire de Noah, la capitaine.
Ça fait plaisir, franchement. Franchement, c'était génial, c'était une super orga, super équipage, super week-end, vraiment que du plus. Il y avait de la compétition forcément parce qu'on est des compétitrices, mais aussi il y a tout le côté fun, bonne ambiance et c'était pas ma première participation, j'en ai fait une, je pense, il y a pas loin de 10 ans, mais ma deuxième.
Et alors, la concurrence était rude ?
Ouais, franchement, il y avait du super niveau, il y avait des filles de partout, des filles des îles, de toutes les catégories d'âge, c'était rude, c'était pas gagné d'avance et c'était génial.
Noah de l'équipage Lévy de Mulette qui termine donc devant On s'était dit rendez-vous dans 10 ans et Salty Queens qui complète le podium. La No Woman No Sail était organisée par l'association Défi des Filles avec le Catamaran Club de Nouméa et le CNC. Toujours sur l'eau, en Var, on disputait également ce week-end les championnats de Calédonie longue distance, hommes et dames, kayak monoplace et océan, kayak avec dérive. Carton plein pour le club des îles sous le vent chez les messieurs en kayak avec la victoire de Benjamin Legavre sur les 14 km. Il a devancé Tito Pouillot et Georges Itaero. En océan, toujours sous les couleurs des îles sous le vent, victoire de Jean-Pierre Théaé devant Fabien Larentec et Julio Peterano. Le jeune Maël Legras de Mauiva l'a emporté en K1 junior. Ryan Tavita en océan junior. Chez les dames, sur 8 km, succès de Sandrine Devillers du KCN devant Myriam Wedjiem et Christine Bousquet. En océan, c'est Mélanie Siakinou des îles sous le vent qui a été la plus rapide devant Testa Vita. Direction l'IFU ensuite, où la Ligue de volley donnait rendez-vous tout le week-end aux pratiquants à Lossy pour deux jours de pratique dédiée, samedi en indoor et dimanche en beach volley. Écoutez Harmonie Connu, la secrétaire de la Ligue calédonienne de volley.
Vraiment faire pratiquer les jeunes, essayer de remettre un peu, redynamiser la pratique qui est déjà installée sur les îles, mais pour pouvoir relancer et puis recréer une dynamique pour l'année prochaine. Puis nous, par l'intermédiaire du GSA, c'était pour pouvoir vraiment avoir des remontées terrain pour orienter les perspectives de 2025 avec des projets concrets et puis qui sont vraiment réalistes par rapport aux réalités des différentes îles. Quoi.
Voilà, Harmonie Connue, la secrétaire de la Ligue calédonienne de volley. Plus de 200 participants étaient de la partie. Allez, encore des résultats, cette fois hors du territoire. Un petit mot de football, hein, puisque s'il n'y avait pas de Calédoniens, vous le savez, de clubs calédoniens engagés en Coupe de France cette année, en tout cas, ceux qui jouent à l'USA Vertou, club de National 3, disputaient le 8e tour face aux Réunionnais du Saint-Denis FC. Pierre Bacot et Louis Soya, qui étaient dans le groupe, entraînés par le frère du sélectionneur calédonien, Yohan Sidaner. Les joueurs de Vertou ont malheureusement perdu aux tirs au but. 0-0 score final, 5 tirs réussis à 4 en faveur des Réunionnais. Et puis pour terminer sur une bonne note, du karaté, ça se passait à Singapour. Un déplacement senior avec de belles perfs pour les Calédoniens. Frédéric Roumagne qui a notamment terminé premier en vétéran 2 chez les 50-59 ans.
Et ce n'est pas tout à fait terminé, Michael, puisqu'il faut parler du CTOS qui a dévoilé les noms des lauréats des trophées du sport 2024.
Pierre Ferbank désigné athlète de l'année. L'athlète handisport qui a participé, vous le savez, aux Jeux de Paris à l'âge de 53 ans. Il s'est hissé en finale des courses du 100 mètres, 400 mètres et 800 mètres fauteuil. Il a également décroché cette année 2 titres de champion du monde pour amener son total à 17 médailles mondiales. Il nous a fait part de sa réaction, Pierre Ferbank.
Disons que j'ai 53 ans, donc du coup c'était mes 7e Jeux, les Jeux de Paris. J'ai tout fait pour me qualifier. Les qualifications étaient très dur et même j'étais le seul fauteuil en athlétisme sélectionné. C'était une belle année, mes 7e jeu. Moi, je suis surpris de mes performances parce que c'est un sport passion et j'essaie toujours de m'améliorer, de changer quelques manières de s'entraîner, de manières de pousser avec le fauteuil de course. Donc c'est une belle récompense. Je remercie d'ailleurs tous les Calédoniens de m'avoir encouragé et soutenu encore cette année et depuis toutes ces années, à vrai dire. Ça peut en plus donner un peu envie à d'autres sportifs handisport de persévérer parce que c'est la persévérance qui fait qu'on y arrive et jamais en un claquement de doigts. Et donc super, super heureux de ça. On a vécu quand même une année difficile pour toute la Calédonie et encore ceux qui ont des soucis. Et tout ça, j'aimerais leur souhaiter de joyeuses fêtes de fin d'année, pour qu'il y ait un petit peu du moral et de l'espoir pour cette fin d'année.
Voilà pour la réaction de Pierre Ferbank. Les autres nominés étaient les nageurs Maxime Grousset et Matt Erebo, la joueuse de rugby Yolaine Niengo et le judoka Alexis Mathieu. Le CTOS avait à cœur de maintenir ces distinctions, même si il n'y aura pas de cérémonie organisé pour cet événement cette année. Les explications de Christophe Dabin, le président du comité territorial olympique et sportif.
C'est vrai que par rapport à la situation que nous avons connue avec la grande majorité, presque toutes les activités ont été stoppées pendant plusieurs mois. Et donc, au regard de cette situation, on ne pouvait pas avoir tous les trophées comme on les a chaque année. Mais c'est vrai qu'avec les performances que de nos athlètes calédoniens à l'extérieur du territoire ont tellement été aussi, exceptionnelles qu'il fallait de toute façon que l'on puisse faire les trophées du sport sous un modèle réduit. Et de la même manière, nous n'aurons pas de soirée spécifique trophée des sports cette année parce que on considère aujourd'hui que par rapport à tout ce que la population subit, à nous d'être aussi extrêmement vigilants. Mais ça ne nous empêche pas de pouvoir récompenser nos athlètes cette année.
Voilà, l'exploit de l'année est à mettre cette fois au crédit de Leslie Nowicki, la trailleuse qui a remporté chez les féminines le Trail de Bourbon sur l'île de la Réunion, en marge de la Diagonale des Fous. Et puis, en athlétisme, Vadim Strugar a été désigné espoir de l'année après son titre de champion de France des moins de 18 ans sur le 110 mètres haies. Enfin, le prix Roger Cadour du CTOS a été attribué cette année au jeune Noé Gariou, champion du monde de stand-up paddle. Il continue de s'entraîner en Calédonie. Quant au prix Charles Cali, il a été attribué cette année à la Nouméenne, la manifestation 100% féminine pour soutenir la lutte contre le cancer du sein qui avait dû, vous le savez, être reportée en raison de la crise insurrectionnelle et qui a finalement réuni plus de 5200 participantes. C'était le 24 novembre dernier.
Et voilà, comme tous les lundis, vous savez tout du week-end passé sur la scène sportive en Calédonie, en métropole et dans le monde. Merci de votre attention. Il est midi 23, c'est la fin de ce journal. Le prochain rendez-vous d'info, ce sera évidemment 13h pour le rappel des principaux titres. Je vous souhaite une belle après-midi.